Il est minuit, vous écoutez Phare FM, la radio autrement. Ce lundi 30 juin, bienvenue dans la nuit autrement.
La Bible dit:
abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Left you alone for the battle. I was gone when you cried. Some fools say butterflies don't stay. It's been begging me to wake up. Without your love I take my chances. Putting something fancy, baby, we'll be dancing. Back to one, back to one.
Une vie entière en quelques mots. Au feu tout a brûlé. Les souvenirs collent à la peau. Et je rêve éveillé. Que nos vies se mêlent à nouveau. On peut tout oublier. Toi et moi, dépassant le passé. ces personnes nouvelles donnent.
I take my chances, putting something fancy. Baby, we'll be dancing back to one, back to one.
Cocoon avec Klaus sur Phare FM et la chanson Back to One. J'espère que vous allez bien. Il est 1h07, c'est la radio Autrement qui vous accompagne. On est le lundi, on est le 30 juin, dernier jour du mois de juin. L'été, les vacances devant nous. J'espère que ça vous donne du courage. Notre programme, dans la prochaine heure, on entendra Christian Gagneux dans Pain de Vie et on retrouvera Hommes et Femmes, Mode d'Emploi et tout de suite de la musique avec Brandon Hiss et la chanson Gospel Threat. À tout à l'heure.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
I was just thinking, did I turn out to be who I wanted to be when I was dreaming? Back when I was 16, back when I met Jesus, how it felt in my heart to know that God was love and how it really sees us. I still believe it. Just because I'm a believer doesn't mean I don't forget that my heart is a deceiver. There's doubts in my head, but I belong to a Redeemer who's not finished with me yet. I could break it all and he'd make it all new. That's the gospel truth. That's the gospel truth. I was just thinking, sitting in the backyard, watching my two little girls swinging. Hope I'm a good dad, God knows that I'm not perfect. But I'm keeping my eyes on the one who is. Even though I hurt him, he still calls me friend. Just because I'm a believer doesn't mean I don't forget that my heart is a deceiver. There's doubts in my head, but I belong to a Redeemer who's not finished with me yet. I could break it all and he'd make it all new. That's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God.
That's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God.
No lie, it's true. All the logic in the world can never pull me through. No lie, it's true. All the logic in the world can never pull me through. I was just thinking, did I turn out to be who I wanted to be when I was dreaming? Back when I was 16. Yeah, I may be a believer, that doesn't mean I don't mess up. Cause his heart's in my witness, but he's still filling my cup. For him, I wish I could be better, but he says that I'm enough. It's done, and there's nothing I can do. And that's the gospel truth.
Sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
Votre message pain de vie avec le pasteur Christian Gagneux.
Le titre de mon message, c'est « Confesse le Seigneur Jésus ». Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. En lisant ce texte, le chemin du salut implique deux choses. D'abord, de confesser de notre bouche et ensuite de croire dans notre cœur. Si nous confessons de notre bouche sans croire, alors nous sommes des menteurs. La confession ne se limite pas simplement à la confession de nos péchés. Qu'est-ce que veut dire confesser ? Confesser, c'est reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Confesser, c'est proclamer que Jésus est le Seigneur. Confesser, c'est déclarer avec force. Et c'est aussi découvrir que Jésus est le Sauveur. Est-ce que vous laissez surprendre par Jésus ? Jésus veut nous surprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu de belles choses avec le Seigneur parmi nous. Moi-même, j'ai vécu de belles choses et le Seigneur veut nous surprendre. De plus en plus, plus nous lui ferons confiance, plus son nom sera dans notre bouche et dans notre cœur, plus il va nous surprendre. La confession ne se limite pas seulement à la confession du péché, mais c'est le fait que Jésus vit vraiment en nous qui est important. Et il faut que le monde le sache. Il s'agit ici de confesser ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Confesser la guérison que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ. Je confesse ma guérison. Il a guéri mon cœur, mais il a aussi guéri mon corps. Jésus m'a guéri et je le confesse de tout mon cœur, il faut que le monde le sache. Il a pris aussi ma pauvreté spirituelle et il a fait de moi un homme riche, riche dans le sens où je sais en qui je crois et je sais que je ne serai jamais confus comme nous l'avons lu ensemble tout à l'heure. Il m'a guéri de mes malédictions pour transformer ces malédictions en bénédictions. Proclamer Jésus dans notre bouche, c'est proclamer la bénédiction sur nous-mêmes, mais aussi sur toutes les personnes qui nous côtoient. Beaucoup de chrétiens disent croire ces choses, mais ne les confessent pas de leur bouche. Permettez-moi, même si c'est dur à dire, que l'Esprit Saint n'habite pas alors dans ces personnes. Ça peut paraître difficile, mais c'est Paul qui l'affirme dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 12, verset 3. Il nous dit... Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur sinon par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en moi, alors je vais confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas n'importe qui, il est Seigneur. Confesser Jésus dans notre bouche va créer une dynamique qui va permettre au Saint-Esprit de rentrer en action et de travailler dans nos vies de manière concrète, tous les jours, quotidiennement. À cause de la présence de l'Esprit qui est en nous. Si je confesse le Seigneur Jésus de ma bouche, cela va créer une dynamique. Nous prenons souvent l'exemple de cette femme qui souffrait d'une perte de sang. La Bible nous dit que cette femme était exténuée, fatiguée. Premièrement par sa maladie, qui probablement la rendait anémique et la privait de ses forces physiques. Mais aussi fatiguée parce qu'elle avait fait maintes et maintes tentatives chez les médecins. La Bible nous dit qu'elle avait donné tout son argent pour essayer de guérir auprès de différents médecins et personne ne pouvait l'aider. Marc nous dit qu'elle était épuisée et qu'elle n'avait plus de ressources physiques. Elle était ruinée en essayant de se soigner. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 27, il est écrit ici, « Ayant entendu parler de Jésus ». Le fait d'avoir entendu parler de Jésus a provoqué chez elle la foi. Ça a provoqué la foi et au verset 28, il est écrit, « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle a confessé de sa bouche et la femme eut foi, on voit le principe. Elle a entendu parler de Jésus, elle a eu foi, elle a confessé. Elle a agi, elle s'est levée, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle n'est pas restée là simplement à attendre, elle a agi. Ses paroles ont créé une dynamique qui l'a poussée à agir. Si nous confessons Jésus dans notre bouche, cela va créer une dynamique dans notre vie. Mais la foi plus la confession du nom de Jésus-Christ dans notre vie va créer une dynamique. Je dis merci, bien sûr, pour la science, pour la médecine, pour les progrès que fait celle-ci. Mais nous sommes souvent confrontés aux limites de la science, aux limites de la médecine. Et nous avons besoin alors du miraculeux de Dieu. Nous avons besoin de la foi, et la foi nous permet alors de voir au-delà de ces limites humaines. Notre chair nous empêche de croire, et elle nous le rappelle par des douleurs. Elle nous le rappelle par toutes sortes de choses. La chair va venir nous faire douter dans les moments difficiles de notre vie. Et le miracle, c'est justement de vivre l'incroyable. Sinon, ça ne s'appelle pas un miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Le miracle, c'est de trouver des solutions là où il n'y a pas de solution. C'est de trouver la guérison là où la science n'a plus de solution pour nous. Là où les médicaments n'ont plus de limites. Ça, c'est le miracle. La foi, c'est de refuser les limites que la logique humaine a fixées. Et nous regardons avec nos yeux humains très souvent, et c'est pour ça que nous avons besoin de croire de tout notre cœur que Jésus-Christ et ressusciter des morts. Nous avons besoin de proclamer le nom de Jésus. Ma chair dit, c'est impossible. Et le Saint-Esprit qui habite en moi me dit, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 9, 23. Et parfois, nous sommes dans un réel conflit dans notre vie quotidienne entre ce que la chair nous dit et ce que la parole de Dieu nous dit. Un conflit. Je me souviens en 2000, lorsque nous revenions d'Israël, que la seconde intifada avait commencé, je recevais un appel téléphonique d'un monsieur qui me demandait si on pouvait les aider en envoyant des lits médicalisés, des fauteuils roulants, parce qu'on avait l'habitude de laisser tout le temps un fauteuil roulant lors de notre voyage. On l'offrait toujours à la même association. Et un des responsables de cette association m'appelait en me demandant si je ne pouvais pas les aider. Et je disais à ce monsieur, mais moi je ne travaille pas dans le médical, je suis pasteur. Il ne savait pas ce que c'était un pasteur. Alors il dit, bon, excusez-moi. Mais en même temps que je lui disais, je ne peux pas vous aider, il y avait un conflit dans mon cœur. Parce qu'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait, mais si tu peux les aider. Mais la logique me disait le contraire. Et en discutant avec ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, laissez-moi quand même votre numéro de téléphone. Si jamais je peux vous aider plus tôt, eh bien, je vous rappellerai. 3 semaines après, je les ai rappelés. J'ai simplement fait une annonce ici, du haut de l'estrade. Et beaucoup de personnes se sont mobilisées. En quelques semaines, on avait de quoi remplir un conteneur avec des fauteuils roulants et des lits. Et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas du tout logique dans ma chair, dans mon intelligence, mais dans mon cœur. Il y avait une voix qui me disait, mais si, tu peux le faire. Un conflit permanent entre la chair et l'esprit. Mais tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est le message, la bonne nouvelle de l'évangile. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Jésus. Jésus n'a pas de limite. La Bible nous dit qu'en acceptant Christ dans ma vie, je suis devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. J'ai reçu une nouvelle identité. Je suis devenu fils de Dieu, héritier, co-héritier. On a reçu une nouvelle identité et nous sommes des fils et des filles de Satan. On n'est plus les esclaves de notre chair. Si nous connaissons Christ, on a été libérés de l'esclavage, libérés des chaînes que Satan met autour des hommes et des femmes. Je suis devenu un homme libre en Jésus-Christ. Je ne suis plus un esclave, je ne suis même plus appelé serviteur par le Seigneur. Je suis appelé fils, co-héritier de la grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire. La difficulté, en fait, c'est de vraiment saisir et réaliser cette nouvelle identité. De nouveau, confronté entre la difficulté de ce que la chair nous dit et de ce que notre esprit nous dit. Je voudrais vous dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Est-ce que nous arrivons à saisir cela? Je sais que c'est difficile à saisir parce que charnellement, on est là, on est confronté aux mêmes problèmes que tous les autres. Mais réfléchissons à nos priorités. Est-ce que ma priorité est de vivre bien sur cette terre et de profiter un maximum du bien-être et des bienfaits que la société peut m'apporter sur cette terre? Ou est-ce que je cherche à servir mon Sauveur et mon Seigneur? Nous sommes confrontés à ce que nous voyons autour de nous, à ce que nous entendons. Et notre chair nous met la pression. Oui, c'est vrai que tu as pris de belles résolutions dans tel ou tel domaine de ta vie. Mais est-ce que c'est bien grave si de temps en temps tu te laisses aller petit péché par-ci, par-là? C'est grave parce que l'onction du Seigneur, la présence du Saint-Esprit se retire de nous. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies, c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce que l'onction de Dieu? C'est quoi l'onction du Saint-Esprit? L'onction, c'est de voir Dieu agir dans ma propre vie. C'est de voir Dieu se servir de moi, Jésus se servir de moi, le Saint-Esprit se servir de moi dans tout ce que je fais tous les jours de ma vie. Ça, c'est l'onction. De voir que Jésus me dirige, me conduit, de voir que lorsque je suis en face d'une personne qui est en difficulté, et bien simplement par la parole de Dieu, cette personne retrouve de l'espérance ou trouve le salut, ça c'est l'onction de Dieu. De prier avec la personne et de voir la personne guérie, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies qui nous permet de réaliser cela. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ce que nous possédons matériellement ou ce que nous recevons qui fait de nous des princes ou des princesses du Seigneur. Mais c'est ce que nous allons donner qui va déterminer notre titre. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, il y a l'histoire de deux hommes, Naaman et Élisée. Naaman est le chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait certainement d'une grande considération dans son pays. C'était quelqu'un d'important, on peut imaginer, le général en chef de l'armée. C'était l'un des personnages les plus importants de la Syrie. On pourrait dire aux yeux du monde que c'était un prince. C'était quelqu'un de très important. Seulement, Naaman avait un problème. Naaman était malade. Il était lépreux. Naaman, par le biais d'une jeune fille, entend parler d'Élisée. Et il va venir vers Élisée. Et Élisée va lui proposer quelque chose. Élisée va lui dire de se tremper dans le Jourdain. Dans un premier temps, Naaman ne va pas accepter pour diverses raisons. Il ne va pas déjà comprendre pourquoi il doit se tremper dans le Jourdain alors que chez lui, il y a des fleuves qui sont plus propres que le Jourdain. Et puis, il va certainement trouver ridicule de se tremper cette fois dans l'eau devant toute son armée qui est avec lui. Il va refuser dans un premier temps. Élisée, lui, est le serviteur de l'Éternel. Il n'est pas riche et il refuse même l'argent que Naaman lui propose pour sa guérison. Élisée va écouter la voix de l'Esprit de Dieu et il va dire au chef syrien ce qu'il a à faire. Ça n'a pas de sens ce que Élisée lui demande. Et Naaman va obéir et il va être guéri. Il va se tremper dans le Jourdain et il va recevoir la guérison. Élisée avait compris que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, nous avons tout. Élisée n'avait besoin de rien, il n'avait pas besoin de l'argent du Syrien. Pourquoi ? Élisée se reposait pleinement dans le Seigneur. Et il savait pleinement que le Seigneur s'occupait de lui en toutes circonstances. Il n'avait rien besoin de plus que ce que le Seigneur lui donnait. Il vivait en communion parfaite avec le Seigneur. Quand on a l'Esprit et sa puissance, on n'a besoin d'absolument rien. Parce que Dieu nous donne tout, absolument tout. Et ce qui était valable pour Élisée, mes amis, c'est valable pour nous aujourd'hui de la même manière. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui va se passer demain. Parce que Dieu a fait des promesses à ses enfants. Et Dieu ne ment pas. Et s'il nous a promis de nous occuper de nous comme il s'occupe des petits oiseaux dans le ciel, alors il va le faire. Il prendra soin personnellement de ses enfants. De savoir que Dieu prend personnellement soin de moi, ça me rend heureux, ça me remplit de bonheur et de joie. Mais je sais que dans toutes les difficultés que je rencontre, il est là et lui a une solution. Là où il n'y a pas de solution, il va en trouver une. On ne peut pas acheter la paix. Ça n'existe pas. Vous achetez le meilleur plat du monde, dans le plus grand restaurant, le plus grand cuisinier, vous vous asseyez, et puis vous n'avez pas d'appétit. Avec quoi vous allez acheter l'appétit? Ça ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas acheter le sommeil. Mais le vrai sommeil, celui dont parle David dans les psaumes, « Je me couche et je m'endors », celui-là, on ne peut pas l'acheter. Les choses qui rendent un homme réellement heureux, c'est impossible à acheter. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Je prêchais un jour à Beau Soleil, et pendant que je prêchais, quelqu'un a déposé un papier sur le pupitre. Et puis, sur ce papier était écrit, c'était une demande en fait, on nous demandait, après la réunion du soir, d'aller encore visiter une famille à Monaco. Et quand le frère a vu l'adresse, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, on y va? Il était déjà plus de 23 heures. On peut y aller à n'importe quelle heure, c'était marqué. C'était des gens qui étaient en détresse. Il me dit, le frère, c'est dans le quartier le plus riche de Monaco. Donc on a été, on a sonné à la porte. Et puis il y a un monsieur qui nous reçoit, un grand monsieur avec un fort accent italien. Puis il nous fait rentrer. Il dit, ah, vous êtes les pasteurs, merci d'être venus. Et tout d'un coup, ce monsieur se met à pleurer. Il nous présente sa femme, qui était une actrice anglaise. Il nous explique ses problèmes, ses soucis. Entre autres, il nous disait, on a absolument tout, on est riche, mais dans nos cœurs, on est sec. Et on a tellement de problèmes, tellement de luttes, tellement de difficultés. Ce monsieur avait même son propre hélicoptère. Il était chanteur à la Scala de Milan. On lui a simplement parlé de Jésus. Et on lui a rien demandé, on lui a pas dit de se mettre à genoux, rien. Au bout d'un moment, simplement en parlant de Jésus, cet homme, c'est comme s'il avait compris. Il s'est jeté à terre et il s'est mis à pleurer. Sa femme l'a suivi et on a prié avec lui. Et ils ont été visités tous les deux. Leur vie a complètement été transformée. Un an plus tard, il est venu voir le pasteur et lui disait « Depuis ce soir-là, ma vie a changé. Partout où je vais dans le monde, je cherche une église pour m'approcher du Seigneur. » Dieu transforme les cœurs de ceux qui veulent, de ceux qui cherchent et de ceux qui ont compris que les biens terrestres ne nous rendront jamais heureux. Seul Jésus-Christ dans nos vies nous rendront vraiment heureux. La nouvelle créature ne fonctionne donc plus comme l'ancienne créature. La nouvelle créature ne peut pas être négative. Donc à partir de maintenant, vous ne confessez plus rien de négatif de vos bouches. N'est-ce pas ? Plus de critiques, plus de jalousie, plus de rouspétance à cause de toutes sortes de choses. Parfois moi-même, je me surprends à prononcer des paroles négatives. Mais dans mon cœur, le Seigneur me reprend. Et ensuite, je dois demander pardon. Pardon au Seigneur, mais aussi pardon aux personnes avec qui j'ai tenu des paroles négatives. Si je parle toute la journée de mes bobos, de mes douleurs, de mes souffrances, ça ne les fera pas disparaître. Parler de nos bobos toute la journée, ça ne va pas changer notre condition. Ce qui fera disparaître mes maladies, c'est la foi et l'obéissance dans la parole de Dieu. C'est ma confiance dans la personne de Jésus-Christ. Le psaume 107, verset 19 nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit et il les fit échapper de la fosse. » Amen. Parfois, des gens visitent des malades à l'hôpital et en voyant le malade, ils leur disent « Ah, tu sais, je connais un tel, il avait la même chose que toi. Et puis, il a eu tel et tel traitement, il a souffert beaucoup. » Et puis, le pauvre, on l'a enterré il n'y a pas très longtemps. Certes, ces personnes disent la vérité, mais c'est une vérité qui tue. Ce sont des paroles qui sont négatives et qui ne vont pas apporter de l'espérance aux malades. Si Jésus est dans mon cœur, dans ma vie, je vais croire à l'incroyable. Je ne vais pas regarder à la circonstance. Je ne vais pas regarder à la souffrance où je vais voir mon frère souffrir. Mais si je suis rempli de la personne de Jésus-Christ, jusqu'au bout, je vais croire que Jésus est capable de le toucher. Jusqu'au bout, je suis capable de croire que Jésus peut le guérir en un instant et en un clin d'œil. Mais je sais que nous sommes parfois limités. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est même pas un devoir, ça doit être naturel. Lorsque Jésus vit dans mon cœur, j'apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je proclame l'espérance. La bouche de la nouvelle créature est amenée à produire de l'espérance. Elle est amenée à produire la délivrance. Elle est amenée à produire la guérison, la vie. Si je suis une nouvelle créature, eh bien Satan, au bout d'un moment, doit plier bagage. Il doit partir. La Bible me dit que Satan, c'est le prince des voleurs. C'est un voleur. Il doit plier bagage. Avec tous ses outils de voleur, il doit partir. Il doit arrêter de voler les bénédictions qui sont réservées aux enfants du Seigneur. Il veut voler les bénédictions que Christ a préparées pour chacun de nous. Mais nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de lui résister. Et quand on sait que c'est un voleur, alors il faut agir en conséquence. Il ne faut pas le laisser voler. Il faut rester éveillé. On dit de nous que nous sommes des chrétiens du réveil. Alors si nous sommes éveillés, le diable ne pourra plus venir nous voler. Et s'il essaye de nous voler, il faut être plus malin que lui. Un jour, j'avais des problèmes au travail. J'étais responsable d'un secteur géographiquement assez grand, avec une soixantaine de personnes. Pour faire tourner le secteur, eh bien, on avait du matériel, des outils. Et chaque fois, on me reprenait, mes chefs, chaque mois, on me disait « Écoute Christian, ça va pas là, toi tu fais exploser le budget du petit matériel ». Alors j'avais beau faire des efforts, le problème c'est que j'avais un voleur ou plusieurs voleurs dans l'équipe, en tout cas il y en avait au moins un. Et puis j'ai commencé à prier pour ça, j'ai dit « Seigneur, il faut que tu m'aides, c'est pas possible, il faut que tu m'aides ». Et un jour, j'étais excédé par le fait que tout le temps il manquait plein d'outils dans le placard. Et le placard j'étais obligé de le laisser ouvert, Parce que quand j'étais en réunion et qu'il fallait des outils, il fallait que tout le monde puisse travailler. Et un jour, je priais et puis ça m'énervait cette histoire, ça ne me laissait pas tranquille. Alors un coup, j'ai fait mine de partir et je suis monté sur la charpente métallique de l'atelier. Et puis j'ai fait de la surveillance pendant quelques temps. Oh, j'ai pas dû surveiller longtemps. Et j'ai vu le voleur. Mais ça me posait un problème après. Parce que cette personne, je la connaissais très bien. C'était quelqu'un qui était père de famille. Et alors, le dénoncer, ça me posait un problème de conscience. Parce qu'automatiquement, il se serait retrouvé à la porte. Alors que faire ? Je disais, Seigneur, mais maintenant, oui, ok, c'est bien, t'es bien avancé. Tu sais qui c'est le voleur, mais où est la solution ? Et alors, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. J'ai convoqué une réunion. Toute l'équipe, j'ai dit, voilà, j'ai un problème. Tous les mois, je dépasse le budget du petit matériel et il y a un voleur parmi nous. Donc maintenant, pour que ça cesse, je vais donner la clé à un responsable. Donc si vous avez besoin d'un outil, vous allez voir cet homme. Et j'ai choisi le voleur. À partir de ce moment-là, c'est le voleur qui avait la clé. Et à partir de ce moment-là, j'avais plus de problème. Parce que il devait me rendre des comptes. Et puis, mais quand j'ai donné la clé, tout le monde a rigolé. Mais ça a marché. Le voleur essaye de nous voler. Soyons plus rusés que lui. Et pour être plus rusés que lui, approchons-nous de notre Seigneur, approchons-nous de sa parole. Lisons sa parole. Et nous allons ainsi, grandir et être de plus en plus forts. De sorte que ce ne sera plus du tout notre chair qui va commander. Mais ce sera vraiment mon esprit qui va commander, qui va dominer sur ma chair. Ma bouche est donc très importante. Veillons à ce que nous confessons, veillons à ce que nous promettons, car Dieu et Satan en tiennent compte. Lorsque je parle, Dieu entend, mais l'ennemi de mon âme entend également. Il est difficile parfois d'harmoniser nos paroles et nos actions. Ça, c'est un proverbe canadien un jour que j'ai trouvé. Nous sommes parfois des grands parleurs et des petits faiseurs. Et Dieu préfère l'inverse, les petits parleurs et les grands faiseurs. Salomon va nous avertir dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 6, au verset 1er, il va nous dire, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. » Beaucoup de personnes se lient elles-mêmes en faisant des promesses qu'elles ne peuvent pas tenir. Moi-même, j'ai dû corriger des choses dans ce domaine-là, dans ma vie, parce que je me suis aperçu que si je restais dans cet état, sans tenir ma parole, sans tenir mon engagement, la bénédiction de Dieu se retirait. Si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et que vous ne l'avez pas rendu, alors que vous avez promis qu'à telle et telle date, vous lui rendrez, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de Dieu parce que vous êtes vous-même lié par vos propres paroles. Satan vous a entendu et il vous tient parce que vous êtes devenu menteur à ce moment-là ou parce que je suis devenu menteur à ce moment-là. Dans le lot de tout le monde, je ne veux plus être lié par mes paroles. Vous devenez, dans ce cas-là, esclave de vos propres paroles et la bénédiction de Dieu est alors impossible. Ne dites jamais quelque chose pour plaire à quelqu'un ou alors pour vous débarrasser de quelqu'un. C'est la même chose. Si vous le faites, c'est un mensonge. Et Dieu ne peut pas bénir le mensonge. Nous devenons, dans ce cas-là, esclaves de nos paroles. Si vous avez fait une promesse à quelqu'un que vous n'avez pas tenue, alors la solution, c'est d'aller voir la personne, de lui demander pardon, de régler ce que vous avez à régler pour que vous soyez dégagés et que la bénédiction de Dieu puisse revenir pleinement dans votre vie. De sorte que de nouveau le Saint-Esprit puisse agir et que vous soyez de nouveau pleinement heureux et que vous ressentiez de nouveau sa main à l'œuvre. Dans le même livre des Proverbes, Salomon va rajouter au Proverbe 18, verset 20, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Dans ces deux versets, on découvre que nous pouvons rassasier notre corps, soit de la vie, soit de la mort. C'est important. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dieu n'a jamais écrit des choses pour rien. Nous devons prendre au sérieux sa parole. Dans ces deux versets, on découvre que nous pouvons rassasier notre corps, soit de la vie, soit de la mort. Il s'agit non seulement de la mort physique ou spirituelle, mais aussi de l'échec dans notre vie, de la maladie, de la malédiction. Ce sont des conséquences que nous vivons dans nos vies. Nous ne nous en rendons pas compte. Nous ne savons pas le pourquoi. Il nous est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la langue qui décrète la mort ou la vie dans le quotidien d'un homme. Parfois, on entend des gens qui disent, il n'y a rien qui va. Je ne connais personne, je souffre de solitude, je ne réussis dans rien, il n'y a rien qui marche. Ce sont des paroles qui sont couramment entendues, mais qui ne produisent, une fois de plus, aucun changement dans la vie de la personne. Salomon dira dans le Proverbe 15, au verset 4, « La parole réconfortante est comme un arbre de vie, et une parole cruelle est démoralisante. » Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons être des personnes encourageantes. Nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, être négatifs. Et nous n'avons aucune raison d'être négatifs. Aucune raison, parce que Jésus remplit nos cœurs de sa joie. Il remplit nos cœurs de sa paix. Nous devons apprendre à maîtriser notre bouche. Nous devons apprendre à parler de Jésus. Apprendre à parler la parole de Dieu. Il est écrit. Et la parole de Dieu dans notre bouche va produire de l'effet sur nous-mêmes, mais aussi sur toutes les personnes qui vont l'entendre et la recevoir. Confesser Jésus-Christ, c'est confesser la vie. Seul Jésus a le pouvoir de nous rendre libres et heureux. Seul Jésus a le pouvoir de nous libérer de nos chaînes et de nos liens. Il n'y a rien de plus beau que d'être libre. Il n'y a rien de plus beau que de vivre complètement détaché des choses de ce monde. Parce que Jésus prend soin de nous. Ce sont ses promesses. Relisons ensemble Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, ou bien encore ne sera pas déçu, ne le regrettera jamais. Je ne regrette pas un instant le jour où j'ai vraiment compris qui est Jésus, le jour où je l'ai accepté dans mon cœur. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 4, verset 15, et je termine par ce verset, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » N'est-ce pas extraordinaire? Il n'y a rien de plus rassurant que de savoir que Dieu est avec nous et qu'il habite en nous. Tant la pression est grande autour de nous, autant la présence de Dieu se fait sentir. Et alors nous pouvons vivre dans la paix. Il peut se passer plein de choses autour de nous. Jésus est là. Son nom glorieux est dans notre cœur et dans notre bouche. Et lorsque nous le prononçons de notre bouche, il se passe toujours quelque chose. Eh bien, Jésus va agir et confirmer sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que nos bouches soient remplies de sa parole, que nos bouches soient remplies de sa personne. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Phare FM, une autre musique.
Praise the Lord, everybody, always. Don't you know that he's worthy of praise? So just sing a hallelujah, you know he's gonna hear you. So lift your hands and praise his name. What y'all doing now? Listen to your mama. Church shoes on, she don't want the drama. Turn the radio up, it's Kirk Franklin. Makes you wanna thank him.
Good God.
Singing melodies from heaven. Raining down when I think about the
blessing.
You're my joy and my peace. Praise the Lord, everybody, always. Don't you know that he's worthy of praise? So just sing a hallelujah. You know he's gonna hear you. So lift your hands and praise his name.
Everybody just praise him.
singing, them church bells ringing. They took a sinner from the streets, made a believer out of me. And I'm saved, and I'm saved, singing. Everybody, everybody, just praise. Everybody, everybody, just praise. Everybody, just praise His name. Just praise Him.
Swimwear, yeah, you've been there for my entire life. On it, you're beyond it. If I'm honest, I'll keep asking you why. Why do you still bless me? You're giving me all that I need. Hands up, down on my knees. Yeah, I'm gonna praise you.
2 heures moins le quart passé sur Phare FM. On vient d'entendre Bay Turner avec Jordan Feliz, Praise the Lord. Notre programme se poursuit. Vous allez retrouver Homme et Femme, Mode d'emploi tout à l'heure. Ce sera après Vlada, You Alone. Et tout de suite, on écoute Lynn, J'avoue.
De mentir aux gens que j'aime, pour pas dire quand ça va pas. Ça m'est arrivé de sourire pour fuir les peines que je traîne derrière moi. Et puis c'est pas facile à dire quand on a peur, quand on n'a pas confiance en soi. Après tout, j'ai quoi à offrir, moi je sais pas. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue, j'ai pas envie de te dire merci, parce que tu mérites tellement plus que ça. Parce que tu m'as sauvé la vie, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de la vivre avec toi. Et qu'importe les torrents, les pluies, toutes les épreuves du monde ensemble, on les traversera et on se créera des souvenirs que les autres ne comprendront pas, ne comprendront pas. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant, je t'attendais pas, toi mon amour. Cet amour si fort que je traverse les murs. T'es ma plus grande chance, mon toit, mon armure. T'es ma dernière danse, ce tableau sans rature. T'es mon essentiel, sûrement l'âme la plus belle. T'es ma lumière qui brille, qui m'éclaire. Et si un jour tu pars, si un jour je te perds, n'oublie jamais combien je t'aime. Alors j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Toi mon amour. Et si la vie nous sépare, alors ça ne vaut plus le coup. J'avoue. Mais j'avoue, depuis que t'es là, je n'ai plus peur de voir se lever le jour. Pourtant je t'attendais pas, toi mon amour.
My cup, and dry. Who picks me up when I fall and I cry? Who dries my tears when there's no one who knows? Who knows my fears when my heart remains closed? It's you alone, everlasting Father. You alone, my faithful provider. You alone, my best friend and brother. For there's no one who cares, and there's no one who shares like you alone. Alone. Who gives me strength when I'm down on the ground? Who provides faith when I'm wearing a frown? Who crowns my head when I've lost all my pride? Who's always there when I'm hurting inside? It's you alone, everlasting Father. You alone, my faithful provider. You alone, my best friend and brother. For there's no one who sees, and there's no one who hears like you alone.
Femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Notre thématique aujourd'hui, partager du fun et découvrir le goût de l'autre.
J'ai appris à aimer regarder Eric qui regarde du rugby.
Mmh. C'était important pour toi que ta femme soit avec toi dans ce moment-là.
Vraiment, c'était un moment que j'avais envie de partager avec elle parce que...
Toi, c'était fun.
J'ai besoin qu'elle comprenne que c'était important pour moi dans le fun. Quoi.
D'ailleurs, je me suis mise au tricot en même temps.
C'est original.
Du coup, je tricotais avec Frédéric qui regardait le match se dérouler. On a appris à marcher ensemble aussi. Pour nous, ça, c'est fun. On aime beaucoup aller visiter des vieilles villes. Et on a appris à le faire ensemble. Et on le programme, en fait, dans notre...
Des parcs nationaux aux États-Unis. On se balade. Je fais de la photo et Rachel me suit. Et on parle tous les deux. Oui, beaucoup.
Et tu me demandais pour moi.
Ouais.
Moi, ça va vous sembler peut-être bizarre, mais moi, j'aime bien les Bollywood. Ça m'amuse de danser sous la pluie.
Le côté, je me cache derrière.
Ouais, c'est ça. Exactement. Tu fais très bien. Tu as dû regarder.
Et du coup, maintenant,
comment tu fais, moi, je
t'assois avec ta, alors, avec ta belle épouse et tu
Oui, je m'assois avec mon épouse et j'apprends à aimer. Ça m'a pris du temps, je dois être honnête, ça m'a pris du temps.
Est-ce que tu fais du tricot?
Non, alors non. J'avoue que parfois, j'ai un jeu sur mon téléphone parce que les films peuvent être très longs aussi. Mais j'ai appris les codes du film Bollywood. Il y a un moment, ils vont presque s'embrasser, mais ils ne s'embrassent jamais. Quand il y a de la pluie, ils vont danser sous la pluie, ça je sais. Et des fois, quand on va en Inde, on s'attend à ce que tout le monde danse dans la rue et puis on est surpris qu'ils ne le fassent pas forcément.
Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de trouver des choses communes, comme aller, nous, on aime beaucoup aller visiter des parcs nationaux, etc. C'est quelque chose qu'on aime naturellement ensemble. Pour nous, ça nous détend. Et puis, apprendre aussi ce que l'autre aime. Et on peut apprendre à y rentrer. Maintenant, je suis pas obligée systématiquement de regarder le rugby avec Eric. Il est pas obligé de regarder systématiquement les films avec moi. Mais on a appris à découvrir le goût de l'autre, ce qui était fun.
Vous avez des choses fun de temps en temps, quoi.
Ouais.
On s'est mis au puzzle récemment. Alors moi, Zoé arrive avec un puzzle aujourd'hui, mais on va pas faire un puzzle à notre âge quand même. Moi, j'adore faire du puzzle.
Voilà. Et, ça me détend parce que j'ai la tête, j'ai plus besoin de penser à quelque chose. Je dirais pas que c'est. Enfin, j'aime.
Ça te détend.
Non, ce que j'adore, moi, j'adore marcher avec Guillaume. Ça, j'aime beaucoup aussi. Le matin, on part avec notre chien, on se fait une grande balade et tout. Ça, j'adore. Non, j'adore passer du temps avec lui.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Écoutez, c'est Phare FM.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.